France Musique. Musicopolis. Elisabeth McConkey, première présidente de la Guilde des compositeurs britanniques. Lorsque Elisabeth McConkey devient la première femme présidente de la Guilde des compositeurs britanniques en 1959, elle a déjà 52 ans. Ce n'est donc pas évidemment le premier événement marquant dans sa vie. Si j'ai choisi de mettre en avant cet aspect de sa carrière, c'est que McConkey s'est toujours intéressée à la place des compositrices et compositeurs dans la société et que c'est donc une manière de mettre en valeur son action dans ce domaine. D'autant plus qu'elle a été reconnue par ses pairs comme une excellente collègue, se dévouant pour les autres autant qu'il était possible. Et tout le monde en avait bien besoin. Quelques années plus tard, elle écrit « Il est courant, lorsqu'on avance en âge, de déplorer les conditions de vie actuelles et de se remémorer avec nostalgie le bon vieux temps de sa jeunesse. Mais pas si on est compositeur. Ça n'était pas le bon vieux temps, surtout pour un jeune compositeur. » Ce qu'Elisabeth McConkey a trouvé difficile dans son parcours de jeune compositrice, c'est ce qui est venu juste après sa formation. Revenons un peu en arrière. Lorsqu'elle est arrivée à Londres à l'âge de 16 ans pour entrer au Royal College of Music, une fois trouvées ses marques, elle dit avoir immensément apprécié son séjour dans l'école. Elle a remporté des prix et des bourses. Quelques-unes de ses œuvres ont même été jouées par l'orchestre du collège, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Mais que faire ensuite, demande-t-elle, surtout si l'on est une fille. En lui refusant la bourse Mendelssohn que le jury voulait lui donner, le directeur, Sir Hugh Allen, lui dit « Peu importe, une fois que vous serez sorti de l'école, vous allez vous marier et vous n'écrirez plus jamais une seule note. » La jeune fille s'indigne alors. Elle a bien l'intention de se marier, mais aussi de continuer à écrire beaucoup de notes. C'est une fois quitté le Royal College of Music en 1929 que les questions se posent pour Elisabeth McConkey. D'abord, elle dispose d'un petit sursis, puisqu'elle a remporté une bourse pour voyager à l'étranger et qu'elle peut donc aller à Vienne, à Paris et à Prague. C'est le séjour de Prague qui l'intéresse le plus. Elle travaille avec le compositeur et chef d'orchestre Karel Jirák et c'est à Prague que son concertino pour piano et orchestre est créé par Jirák avec Erwin Schulhoff au piano. Le succès est grand pour le concertino d'Elizabeth McConkie. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau, puisque l'œuvre n'est pas rejouée. Et une fois rentrée en Angleterre, la jeune compositrice, elle a tout juste 23 ans, va devoir commencer le parcours du combattant, en l'occurrence de la combattante. Comme elle le raconte sur le tard, à cette époque, aucun éditeur n'envisageait sérieusement de publier quoi que ce soit d'une jeune femme, sauf peut-être quelques petites mélodies. À Londres, dans les années 1920, poursuit-elle, personne n'aurait songé à aider un compositeur, et encore moins une compositrice, à s'établir ou même à apprendre son métier en écoutant jouer ses œuvres. Il n'y avait pas de société pour la promotion de la nouvelle musique, pas de concerts de musique contemporaine à la BBC ou de séries « Musique de notre temps », pas de subventions ou de commandes de l'Arts Council, pas de plateforme pour les nouveaux compositeurs dans les festivals locaux et très peu d'intérêt pour la musique nouvelle dans les universités. À mon retour de Prague en 1930, écrit Elizabeth McConkie, j'ai fait la seule chose qui s'offrait alors à un jeune compositeur. J'ai envoyé une partition à Sir Henry Wood, le chef d'orchestre. J'ai eu de la chance, il a joué ma suite The Land au Proms la même saison. Elle a reçu, je peux le dire, des avis de presse incroyablement bons. Mais c'est tout. Cette bonne réception n'a été suivie d'aucune commande, ni de subvention, ni même d'interview à bâton rompu, ni d'une autre exécution. Ça ne paraissait même pas étrange à cette époque. Il semblait que c'était le lot du compositeur et que écrire de la musique devait être sa propre récompense. Devant le néant que rencontrent les jeunes compositrices et compositeurs britanniques des années 30 en termes d'aide pour se faire connaître, un petit groupe de jeunes femmes, des camarades d'Elizabeth McConkie au Royal College of Music, se réunit pour organiser quelques concerts. Ils s'appelleront bientôt les concerts McNaughton-Lemar. Dès le début, en 1931, McConkie est très investie dans l'organisation et ses œuvres vont être très souvent jouées dans ce cadre. Et ce groupe révolutionne en quelque sorte le phénomène du concert à Londres. En effet, à cette époque, si on suit les quatre grandes organisations de concerts, qui sont les quatre grands orchestres ou sociétés symphoniques de la capitale, on peut entendre peut-être deux ou trois œuvres de compositeurs britanniques dans une saison. Et bien sûr, inutile de vous dire qu'aucun n'est un jeune compositeur, et encore moins une jeune compositrice. Lorsque les concerts McNaughton-Lemar commencent, c'est un véritable vent de fraîcheur qui souffle sur le milieu musical londonien. « La presse salue l'excellente qualité des concerts McNaughton-Lemar, qui donnent toujours lieu à moult découvertes d'œuvres et de jeunes compositrices et compositeurs. L'organisation des concerts se fait de manière informelle, pas de comité, pas de hiérarchie. Tout se passe en famille et tout le monde s'entraide pour la copie des partitions, les arrangements et les exécutions. C'est une chance pour Elizabeth McConkie. Malheureusement, on lui diagnostique une tuberculose en 1932. À cette époque où la maladie ne se traite pas encore par antibiotiques, on conseille à la jeune femme d'aller se soigner en Suisse. Elle refuse. Elle préfère partir avec son mari s'installer à la campagne, dans le Kent, au sud de Londres, où elle essaye de passer le plus de temps possible dehors, même pour composer. Et elle ne s'arrête pas de travailler. Mais bien sûr, l'éloignement de Londres où se concentre la vie musicale est pour elle un véritable problème. Grâce notamment au concert McNaughton-Lemar, on entend tout de même à Londres la musique d'Elizabeth McConkie. Elle est même celle dont le plus grand nombre d'œuvres sont données dans ses soirées, à côté de celles de Britten, Rawthorne, Williams ou Finzi. McConkie est jouée aussi à l'étranger, grâce au festival de la Société internationale de musique contemporaine. Malgré la tuberculose, malgré l'éloignement de Londres, elle est très déterminée, elle ne cesse de composer, et elle obtient des succès encourageants. Vers 1936, ses œuvres ont déjà été données en Europe centrale, à Paris, en Allemagne, aux USA et même en Australie. Mais arrive la guerre. Elle doit s'éloigner encore plus de Londres pour aller dans le Shropshire, au centre de l'Angleterre. Elle continue à composer malgré toutes les conditions défavorables. Parmi les œuvres d'Elizabeth McConkie, celle qu'elle-même préférait, c'était ses quatuors à cordes. 13, composés tout au long de sa vie, le premier à 25 ans, le dernier à 75. Après la guerre, la situation a continué à être très difficile pour McConkie, installée désormais dans l'Essex, au nord-est de Londres, d'une santé fragile et à présent avec deux petites filles à élever. L'une d'elles, la compositrice Nicola Le Fanu, raconte que lorsqu'elle était enfant, sa mère se mettait à travailler vers 10h30 du soir, lorsque les filles étaient couchées, et que souvent, on la trouvait endormie sur son piano le lendemain matin. Sa vie s'exprime bien dans les lettres à ses amis, où on trouve des mentions comme « Aujourd'hui, j'ai terminé mon 7e quatuor. Je suis allée dans les magasins à la recherche d'une jupe pour le concert et j'ai acheté des framboises pour faire de la confiture demain. » Après la guerre, la musique de McConkie est très peu jouée. Et elle doit à nouveau, avec énergie et détermination, trouver les moyens de se faire entendre. Par exemple, en participant à des concours. Elle obtient des prix, le Edwin Evans pour son 5e quatuor. Et avec son ouverture Proud Thames, fière Tamise, elle gagne le concours organisé en 1953, au moment du couronnement d'Elizabeth II. En 1955, la BBC joue l'intégrale de ses quatuors, 6 à cette date. Ce qui représente un moment important pour la reconnaissance de sa musique. Et puis, je vous le disais, elle s'est toujours montrée une excellente collègue depuis ses années au Royal College of Music, défendant toujours la musique de ses camarades. En 1959, donc, elle est nommée présidente de la Guilde des compositeurs britanniques. Elle est la première femme à ce poste. Dans son rôle de présidente de la Guilde des compositeurs de Grande-Bretagne, Elizabeth McConkie se montre très active et efficace. Elle monte une bibliothèque de partitions de compositeurs britanniques vivants, qui deviendra plus tard la base du Centre d'information pour la musique britannique. Elle dirigera également le comité exécutif de la Société pour la promotion de la nouvelle musique, un organisme qui se dévoue pour faire jouer les jeunes compositeurs et se révèle aujourd'hui encore comme le soutien le plus important dans ce domaine en Grande-Bretagne. Dans les diverses institutions auxquelles elle a appartenu, tout comme dans le cadre privé, Elisabeth Mekanki a continué sa vie durant à aider ses consœurs et confrères, y compris les jeunes arrivant sur la scène musicale, avec qui elle a créé beaucoup de liens. Toujours très autocritique envers son travail, elle a rejeté beaucoup de ses propres œuvres. Elle a cessé de composer à 80 ans, ne voulant pas ajouter à son catalogue des partitions qui n'en vaudraient pas la peine. Sauf une courte œuvre pour chœur, composée à 82 ans, destinée à célébrer l'anniversaire du chef Stephen Wilkinson. On Stephen's Day, pour cœur de femme a cappella de Elisabeth Mekanki, les BBC Singers, dirigés par Odaline de la Martinez. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Manuel Couturier pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Élise Cravette pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.